France Culture.
La SNCF et 7 euros est dans le vert. Ses bénéfices s'élèvent à 1,6 milliard d'euros. Son chiffre d'affaires est en hausse de 4,8% sur un an et toutes ses filiales augmentent également leur chiffre d'affaires. Alors, que révèle cette situation? Peut-elle durer? Et la concurrence ferroviaire, dont la réalité devient peu à peu tangible au fil des années, menace-t-elle ce modèle? Pour en parler, deux invités ce soir. Patricia Perrin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste du transport ferroviaire. Vous êtes coordinatrice avec Frédérico Antoniazzi du livre intitulé « Système de transport ferroviaire et urbain », un ouvrage qui est paru en novembre 2004 aux presses des ponts. Face à vous, Chloé Peuta, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes co-rédactrice en chef du média Le Temps des Ruptures et vous êtes l'autrice de cet ouvrage intitulé « La révolution ratée du transport ferroviaire au XXIe siècle », un livre qui est paru en novembre dernier aux éditions Le Bord de l'eau. Merci à toutes les deux d'être ce soir dans Question du soir.
Avant la concurrence, il y avait donc le monopole. Le monopole, à la française, il a entraîné la notion de péréquation. Ça veut dire quoi la péréquation? Il y a des lignes TGV qui étaient très rentables, donc tout allait bien. Il y en avait d'autres qui n'étaient pas rentables. Et il y avait une vocation d'aménagement du territoire. C'était pas grave, il y avait que la SNCF qui faisait ça, le solde net était positif, tout allait bien. Qu'est-ce qui se passe avec la concurrence? Et sans surprise, les concurrents, ils arrivent sur les lignes rentables. Pensez bien qu'ils ne vont pas sur les lignes non rentables. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de concurrence, ça va encore. Mais quand on se projette dans 5 à 8 ans, il y aura beaucoup plus de concurrence sur le réseau qui vont se concentrer sur les lignes rentables. Je demande juste qu'en termes d'équité concurrentielle, pour le coup, ça marche aussi dans ce sens-là et que SNCF Voyageurs ne soient pas pénalisés par rapport à ce problème d'aménagement du territoire.
La voix de Jean-Pierre Farandou, le PDG actuel de la SNCF, il s'exprimait sur France Info le 28 février dernier. Patricia Perrin, avant d'entrer dans le détail des régions, des territoires, des lignes aussi et des dessertes, un paysage général. Est-ce que cette concurrence qui s'étend peu à peu dans le domaine ferroviaire menace le modèle tel qu'il a été constitué depuis les années 30 et 40 en France?
Alors, comme le dit très bien le PDG de SNCF, ça risque de menacer l'aménagement du territoire sur la question des TGV. Et tout de suite, il faut dire aux éditeurs, ça ne concerne pas les TER ou les trains régionaux. Mais effectivement, en France, le TGV fait une desserte très large, très étendue, notamment de villes moyennes. Et oui, la concurrence va remettre ça en question et c'est tout à fait exact, oui.
Chloé Peuta, vous écrivez comment l'ouverture à la concurrence a accéléré le déclin économique du fret ferroviaire. Sur le fret, là aussi, d'une manière courte, vous êtes d'accord sur le fait que cette concurrence menace l'avenir du fret?
Si on parle du fret, je dirais qu'on a quand même quelques résultats parce qu'on a plus de recul que l'ouverture à la concurrence du marché voyageur, puisqu'effectivement le fret ça date des années, enfin la réglementation européenne qui ouvre la concurrence date de 2004 et on est sur 2005-2006 pour la mise en œuvre réelle. Aujourd'hui, ce qu'on observe quand même, c'est que la situation du fret est assez compliquée. On est sur 9% de part modale. Donc qu'est-ce que la part modale? C'est finalement, de manière très simplifiée, la répartition du taux d'utilisation entre les différents transports. Donc on est quand même sur 9% pour le fret et 89% pour le camion. Ça, depuis l'ouverture à la concurrence et surtout aux alentours des années 2010, ce déclin s'est accentué pour tout un tas de raisons. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Mais aujourd'hui, on voit qu'on est dans une telle situation qui est compliquée, que l'ouverture à la concurrence n'a pas finalement permis à la fois d'attirer davantage d'entreprises pour l'utilisation du fret. On a eu quand même beaucoup plus d'utilisation du camion pour aussi tout un tas de raisons. Et aujourd'hui, ça amène à opérer une réorganisation aussi du secteur avec la réforme qui a été annoncée par l'exécutif fin d'année dernière, qui est aussi motivée par une enquête de la Commission européenne qui accuse fret SNCF, mais qui a fait la même chose aussi pour DB Cargo, qui est l'homologue côté allemand, d'avoir bénéficié de subventions mettant en péril la concurrence libre et non faussée.
Patricia Perrin, en quelques mots.
Oui, alors moi, ce que je trouvais intéressant, c'est prendre un peu de recul historique, parce que en fait, le déclin du fret, il commence dans les années 70. Et du coup, dire que c'est la concurrence, quand on regarde des chiffres, objectivement, ça se casse la figure depuis les années 70. L'ouverture à la concurrence arrive et ça change pas grand-chose. Ça continue à baisser, et on arrive vraiment à un plateau bas de 10%. Mais c'est vrai que dire que c'est la concurrence qui a fait baisser, bon, c'est plutôt le camion et le transport routier, il y a d'autres débats, parce qu'en tout cas, le fret ferroviaire s'effondre depuis bien plus longtemps que ça.
Bon, on va revenir sur la concurrence, mais je voudrais d'abord vous entendre l'une et l'autre sur cette santé positive de la SNCF. Je rappelle quelques chiffres. En 2024, dans une conjoncture difficile, l'entreprise a dégagé un résultat net positif d'1,6 milliard d'euros pour un chiffre d'affaires total de 43,8 milliards d'euros en hausse de 4,8% comparé à 2023. Patricia Perrin, comment on explique ces chiffres?
Alors globalement, par la bonne santé du train. Il n'y a pas que le train dans le groupe
SNCF.
Sans doute,
c'est la SNCF, mais...
Il y a aussi des activités de transport routier, il y a aussi des activités de transport urbain.
La logistique,
etc. Il y a aussi d'autres choses. Mais globalement, c'est le train, et c'est parce qu'il y a plein de monde dans les trains. Je ne sais pas si vous prenez le train régulièrement, mais en tout cas, on le voit dans les TER, on le voit dans les TGV. Dans le TGV, on arrive même à une situation où parfois, on a du mal à réserver un billet un certain nombre de jours par an, en mai, en juin, les week-ends, en juillet, en août, mais à peu près tous les vendredis soirs, parce qu'il y a plein de gens dans les trains. Mmh. Et en fait, faut savoir que quand on fait circuler un train, qu'il y ait une personne ou 1000 personnes dedans, finalement, ça coûte la même chose à SNCF. Parce que le conducteur va le payer pareil, l'électricité, ça sera la même chose, le péage, ça sera quasiment le même. Et du coup, quand on a un train qui est très très plein, là, on doit avoisiner 80% de taux de remplissage, hein, ce qui est monstrueux en moyenne, et ben dans ce cas-là, c'est hyper rentable pour la SNCF. Et c'est parce qu'il y a beaucoup de trains, beaucoup de gens dans les trains, qu'il y a, voilà, du coup, cette grosse rentabilité.
Est-ce que c'est rentable parce que les trains sont très très pleins? Est-ce que c'est aussi parce qu'ils sont très très chers, Chloé Potta?
Alors, je vais juste revenir sur ce que vous dites. Je suis tout à fait en phase avec ça. Alors, cette augmentation de la demande, elle est quand même importante, c'est depuis ces dernières années. Peut-être qu'on peut l'expliquer aussi par le fait que le train est un mode de transport, du coup, qui ne pollue pas beaucoup par rapport aux autres. Donc, je pense qu'il y a cet intérêt au regard de la transition écologique aussi qui explique cette augmentation de la demande. Alors, est-ce que les trains sont chers ou non? Ce que je dirais simplement, c'est qu'il y a un système, mais qui est utilisé par la SNCF, mais aussi par les compagnies aériennes et par d'autres compagnies ferroviaires. C'est pas quelque chose qui est propre à la SNCF. C'est le système du yield management. C'est-à-dire, plus on a de demandes et plus finalement les prix augmentent. Ce qui peut expliquer aussi pourquoi, quand vous réservez avec votre ami votre TGV un jour ou deux jours après, vous n'avez pas forcément les mêmes prix. Donc, il y a aussi cette raison-là qui peut expliquer que la forte demande entraîne aussi une augmentation des prix par l'utilisation de ce système-là, donc du yield management. Et un autre, vous l'avez un petit peu dit aussi, la bonne santé généralement des filiales du groupe, par exemple Keolis Geodis, parce qu'on ne le mentionne pas souvent, mais SNCF est un groupe international. C'est-à-dire que la SNCF...
Je vous dis, c'est la logistique. Hein.
Exactement. La SNCF opère des trains, du coup, en France, mais aussi a une expertise à l'international pour le train et pour d'autres... les aspects logistiques que vous mentionnez, notamment.
Patricia Perrin, sur ce prix du billet, à quel point il explique, justement, la rentabilité de la SNCF? Et au-delà, d'ailleurs, est-ce que ces prix, selon vous, sont justifiés au-delà des techniques de yield management qu'on vient de décrire?
Alors, toujours si on parle du TGV, hein, parce que le TER, c'est un autre débat, on en parlera plus tard. Oui, les prix du TGV sont relativement élevés, parce que, comme ça a été très bien dit, le yield management, ça va varier le prix en fonction de l'offre et de la demande. Je vous ai dit, il y a plein de trains qui sont pleins, donc l'offre est très forte. Et en fait, en parallèle, la demande est très forte, mais l'offre n'a pas augmenté parce qu'il n'y a pas plus de trains, sous-entendu de matériel, hein, vraiment de rames physiques, qu'auparavant. Donc en fait, quand tout le
c'est
monde.
C'est même l'inverse, la SNCF aujourd'hui manque de TGV.
C'est ça, exactement. Il y a une réduction du nombre de TGV par rapport au milieu des années 2010, parce qu'à l'époque, il y avait une baisse de la demande. Du coup, SNCF avait décidé de radier des rames. Voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, dans une situation où la demande a fortement augmenté depuis la sortie du Covid. Et en parallèle, il n'y a pas plus de trains. Donc évidemment, si les gens se battent pour les places, ça paraît la SNCF de les vendre plus cher. Et c'est vrai qu'il y a toujours cet argument qui est vrai. Hein. C'est-à-dire que si on réserve en avance, on a des prix plus bas. Mais c'est vrai pour les trains moins demandés. Vraiment, le meilleur train, celui qui permet de partir le vendredi soir à la meilleure horaire, lui, il est toujours cher parce que la SNCF sait qu'elle va réussir à le vendre en entrier et elle n'a pas d'incitation à réduire le prix.
Il faut aussi aborder la notion des péages et de droits de péage.
Alors tu vois ici, c'est les rails du TGV. Sur le train, quand tu payes ton billet, t'en as pas conscience, mais tu payes un péage. En fait, c'est un péage que tu payes au kilomètre parcouru, d'accord? Et donc ça, c'est dans le prix du billet.
Ces droits de péage, ils représentent quelle proportion dans le prix d'un billet de train?
C'est entre 35 et 40%, donc c'est énorme.
Sur le TGV?
Oui, ça contribue à rendre le billet de train très cher.
Et ça représente un vrai frein, une vraie barrière à l'entrée pour des nouveaux entrants. La réduction des péages grande vitesse, c'est une mesure effectivement prioritaire pour permettre à la concurrence de se développer sur ces marchés.
Reportage signé France 2. Chloé Potta, qu'est-ce qui a justifié, qu'est-ce qui a permis d'expliquer même la hausse de ces péages ferroviaires l'an dernier, en 2024?
Alors déjà, je m'étonne que ça étonne qu'on paye des péages ferroviaires quand vous empruntez l'autoroute, vous payez un péage. Donc c'est tout à fait le même système. Vous empruntez une infrastructure.
Ils sont un peu moins visibles peut-être quand on prend le train, c'est pour
exactement,
ça.
Exactement. Mais vous empruntez du coup une infrastructure. Donc forcément, vous payez aussi le prix de l'utilisation de cette infrastructure-là. Donc c'est, comme ça a été dit, à peu près 40% du prix. À quoi sert un péage ferroviaire? Ça sert à rénover l'infrastructure, à payer les coûts de maintenance du réseau. Donc c'est pas de l'enrichissement. C'est vraiment pour investir dans le réseau. Les prix sont aussi élevés sur la partie TGV parce que c'est une activité qui n'est pas subventionnée, qui n'est pas considérée comme un service public par l'État. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on subventionne une activité, qui paye finalement, c'est le contribuable. Donc là, il a été fait le choix de faire peser ce coût des péages, notamment sur ceux qui utilisent le train. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Quand on voit que l'état du réseau, moi, je dirais que ce n'est pas un problème. Et on peut regarder aussi, c'était le PDG de SNCF Réseau qui mentionnait le rapport Prime, qui est un rapport de la Commission européenne qui regarde, qui étudie un petit peu les infrastructures de tous les pays de l'Union européenne. Et finalement, le coût de l'utilisation du réseau ferroviaire français n'est pas si élevé que ça. Alors après, je comprends que ça reste un énorme budget quand on regarde les prix TGV, surtout quand on a par exemple deux enfants, on veut partir en vacances. Effectivement, c'est un coût. Donc il faut travailler sur cette question-là. Il y a plein de possibilités. Mais il faut aussi comprendre que ce qu'on paye dans notre billet, c'est l'utilisation aussi de l'infrastructure qui est extrêmement coûteuse.
Mais je reviens quand même, Patricia Perrin, à ma question initiale. Qu'est-ce qui justifiait l'augmentation de ces prix, de ces péages? On avait en mémoire justement, en souvenir plutôt, le fait que ça avait largement embêté les régions, puisqu'elles payent en partie justement ces péages à travers le système de TER. Comment comprendre qu'on augmente encore ces prix?
En fait, SNCF Réseau, ils ont deux sources de revenus, les péages ou les subventions. Bon. Et du coup, si on regarde ce que l'État donne à SNCF Réseau et qu'on fait des comparaisons internationales, là aussi, il y a des rapports internationaux, clairement, l'État, la France, donne moins d'argent à SNCF Réseau que l'État allemand va donner à la DB. Donc, il y a un choix qui a été fait par l'État de faire porter le prix de la route, en fait, par les voyageurs. Un peu comme l'autoroute. Il y a des gens qui vont dire en Allemagne, c'est gratuit l'autoroute, en France, pourquoi c'est payant? C'est un choix politique à un moment. Qui paye? Est-ce que c'est le voyageur ou est-ce que c'est le contribuable? Et en France, on a plutôt décidé que c'était le voyageur. Voilà.
J'en reviens à la concurrence, donc Chloé Peuta. Aujourd'hui, si on se concentre uniquement sur le TGV, à quel point ce domaine-là est-il ouvert effectivement à la concurrence? On sait que la loi a ouvert ce secteur-là à la concurrence, mais dans les faits, à quel point ce secteur est-il concurrentiel?
On observe quand même qu'il y a de nouveaux entrants sur le marché et aussi des volontés de s'insérer sur le marché. On pense par exemple à Trenitalia, à la Renfe, qui sont les...
Donc deux acteurs étrangers, l'un italien, l'autre espagnol.
L'équivalent à la SNCF finalement, mais pour l'Italie et l'Espagne. Mais on a aussi des nouveaux acteurs privés. Je vais citer Le Train par exemple, il y a Kevin Speed également, ou Railcoop, mais ça c'est un autre modèle, c'était un modèle coopératif qui a pas fonctionné. Mais on voit déjà que le marché intéresse. Donc il y a des premières circulations qui sont en cours et il y a des acteurs qui se positionnent. Le sujet que ça pose, c'est là où se positionnent finalement ces nouveaux acteurs-là. Et quand on regarde, c'est sur les lignes les plus rentables. Donc ça va être typiquement Marseille-Paris, Paris-Lyon. Et ça pose une vraie question par rapport à la desserte des territoires, c'est-à-dire où se concentre la concurrence, donc sur les sillons les plus rentables. Mais comment fait-on pour faire en sorte que l'ensemble du réseau et la concurrence puissent aussi infuser, si je puis dire, sur l'ensemble des lignes et pas uniquement sur des lignes qui sont rentables, pour aussi avoir un juste équilibre dans l'exploitation du réseau entre SNCF et les nouveaux entrants.
On peut se dire, Patricia Perrin, après tout, c'est une bonne nouvelle que des concurrents étrangers arrivent sur le marché français. Ça nous permettra notamment, puisqu'on vient de l'évoquer, de payer les billets de train un peu moins chers. C'est le cas, par exemple, aujourd'hui, quand on prend Transitalia entre Lyon et Paris?
Oui, alors c'est le cas, mais comme vous l'avez dit et comme ça a été dit, c'est uniquement Paris-Lyon. Ça ne fera pas baisser le prix à Bar-le-Duc ou bien sur une ligne à Laval qui n'est pas desservie par la concurrence. Et donc oui, la concurrence, elle ne va rentrer que sur ces grandes lignes. Parce que le modèle économique, et notamment les péages, on en parlait tout à l'heure, en fait, si vous êtes un nouvel entrant, vous avez moins de monde dans votre train. Or, si le péage est le même, si vous n'avez pas 1000 voyageurs, parce qu'un train, un TGV aujourd'hui à SNCF, c'est au moins 1000 voyageurs. C'est deux rames à double étage, vous voyez, c'est vraiment beaucoup de monde. Donc, si vous arrivez concurrent, que vous avez un petit train de 300 personnes, pour pouvoir encaisser le péage et le répartir sur suffisamment de voyageurs, c'est beaucoup plus compliqué, en fait. Et du coup, d'où cette impossibilité de desservir des villes moyennes. Et notamment, quand on rentre et qu'il faut ce qu'on appelle amortir le matériel roulant qu'on vient acheter, évidemment, on se concentre sur le Paris-Rennes sans arrêt, le Paris-Nantes sans arrêt, le Paris-Bordeaux sans arrêt, ou le Paris-Lyon, le Paris-Marseille. Ça, c'est vrai, oui.
Coulé Potas, cet argument du prix moins élevé que celui de la SNCF, est-ce qu'il vous convainc?
Bah, du coup, enfin, par principe, la concurrence, c'est ce que c'est censé faire, baisser les prix. Bon, après, quand on regarde un petit peu, déjà, ce qu'il faut mentionner, je pense que c'est important, c'est que pour favoriser l'arrivée des nouveaux entrants sur le marché, il y a, si je vais utiliser le mot ristourne, hein, voilà, pour qui sont faits sur les péages ferroviaires, ce sont des négociations entre SNCF Réseau et les nouveaux entrants, validées par le régulateur, hein, voilà, l'ART. Donc, ça a été notamment le cas. Il y a eu des négociations pour faire baisser sur 2-3 ans les prix des péages pour la Renfe et Trenitalia. Donc, déjà, ça veut dire que bon, il y a sur les 3 premières années, quand même des coûts, on va dire, moins élevés.
Ça veut dire donc que ces acteurs étrangers qui entrent sur le marché français payent durant 2-3 années, des péages moins chers que la SNCF.
Exactement, mais du coup, un pourcentage qui est dégressif, négocié, voilà, j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais par exemple, je crois que c'était sur Trenitalia, c'était censé être 3 ans, ça a été refusé, c'est 2 ans. Bon, voilà, il y a quelques spécificités. Mais effectivement, donc ça veut dire que la SNCF continue à assumer quand même les péages au prix classique, ce qui n'est pas forcément le cas des nouveaux entrants, mais ça me fait penser un peu au mécanisme de l'ARENH sur le marché d'électricité, où du coup, finalement, on a des fournisseurs alternatifs qui peuvent acheter l'électricité à des prix moins élevés auprès d'EDF pour justement favoriser l'arrivée de ces nouveaux entrants. Bon, est-ce que c'est nécessaire? Ça se questionne. J'ai plus tout le temps.
En tout cas, sur ces histoires de péage, il y a beaucoup de fantasmes derrière, comme quoi, j'avais fait un article que j'avais attelé, ont-ils des promos pour être un peu provoque? Et c'était de dire, attention, en fait, c'est quand même des acteurs qui sont pas dans la même situation. C'est-à-dire que vous, moi, les personnes sorties de cette table, on sait qu'il y a Trenitalia. Mais la plupart des Français savent pas forcément qu'il y a Trenitalia en France. Donc, leurs premières années, leurs trains vont être relativement vides. Il va falloir 2-3 ans pour qu'ils soient connus par le public.
Et vous pensez qu'il faut les aider?
Bah, si on veut être sérieux sur la concurrence, c'est qu'on prend des gens qui sont pas dans la même situation initiale et on leur donne 2-3 ans pour s'aligner et réussir à avoir le taux de remplissage des trains. Donc c'est clair qu'il faut pas non plus fantasmer, ah là là, c'est injuste. Bon, en plus, c'est pour des nouvelles offres. SNCF pourrait candidater pour ces réductions de péage si elle lançait des nouvelles offres, voilà, n'existant pas. Mais voilà, c'est que quelques années. Et pour Trenitalia, en plus, j'ai envie de dire, les pauvres, ils ont eu 3 ans de réduction. Il y a eu la sortie du Covid et la fermeture du tunnel de la Maurienne qui fait qu'ils ont pas pu faire leur offre. Donc oui, ils ont eu 3 ans de réduction. Mais voilà, je crois que c'est 37% la première année, on doit être à moins de 10% la dernière. Voilà, c'est le temps qu'ils soient connus, le temps qu'ils remplissent leur train, parce qu'une fois de plus, si le train n'est pas rempli, le péage, il faut l'étaler sur moins de voyageurs, et du coup, vous n'y arrivez pas, en fait. Et c'est ça l'idée.
Chloé Peutat, vous souhaitez réagir?
Oui, alors, moi, je trouve quand même qu'à partir du moment où on utilise une infrastructure, c'est important de contribuer au juste coût de maintenance, puisqu'on utilise cette infrastructure et qu'on la dégrade. Sur le sujet des réductions, et du coup, de permettre de faire connaître aussi les offres des concurrents, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ça passe pas aussi par tout ce qui est le système de billetterie? Que ce soit les points physiques ou en ligne. Aujourd'hui, c'est vrai que, et c'est un vrai défi, je pense, pour la puissance publique, c'est comment faire en sorte, bon, au-delà de coordonner tous ces nouveaux acteurs pour l'offre proposée aux usagers, mais c'est aussi comment on montre aussi, on crée une plateforme où on utilise les plateformes existantes, de billetterie notamment en ligne, pour pouvoir proposer l'ensemble des services de la SNCF, mais aussi des nouveaux entrants. Et ça, je pense que c'est aussi un moyen qui, aujourd'hui, on n'en parle peut-être pas assez. Il y a des réflexions, mais je pense que ça pourrait aussi contribuer à faire connaître un petit peu les autres offres sans forcément faire bénéficier de ristournes.
Il y a tout de même un sujet, Patricia Perrin, qui me pose question lorsque je vous écoute, lorsque vous dites qu'il faut jouer à fond le jeu de la concurrence et que pour cela, il faut permettre à de nouveaux entrants d'être soumis aux mêmes règles, aux mêmes points de départ que la SNCF. Est-ce que ces nouveaux entrants ont les mêmes obligations que la SNCF? Je pense notamment au fonds qui permet de rénover le système ferroviaire, de rénover le réseau ferroviaire, plus exactement, puisqu'il faut préciser tout de suite que les bénéfices qu'on évoquait tout à l'heure de la SNCF sont intégralement reversés à la rénovation du système ferroviaire. Ils ne sont pas, j'allais dire, encaissés par l'État actionnaire. Est-ce que ces nouveaux entrants, espagnols, italiens, participeront à cela eux aussi?
Non, c'est sûr que pour l'instant, il n'est pas prévu qu'ils participent à ça. Et c'est une vraie question. C'est une question tout à fait sensée parce que pour l'instant, tant que la concurrence n'est pas très forte, donc c'est pas l'ensemble, hein, mais bon, il y a au moins 1 milliard, on va dire, par an qui partent des trains qui vont vers le rail, ce qui est une bonne chose. Mais si demain, il y a de la concurrence qui est forte, que les prix baissent, il n'y aura plus 1 milliard. Et en effet, les nouveaux entrants, il n'est pas prévu qu'ils contribuent. C'est une vraie question.
Donc, si je résume, ces acteurs étrangers, ils peuvent choisir les lignes sur lesquelles ils se positionnent, à savoir les plus rentables, et ils ne participent pas à la qualité du réseau dans le temps.
Oui, mais après, SNCF TGV a aussi le choix des lignes sur lesquelles elle se positionne. Enfin, dans la théorie. Dans la théorie, ils pourraient très bien décider de ne plus desservir des villes moyennes. Ils ont essayé de le faire, notamment en Grand Est, et ça n'a pas été facile. Mais voilà, dans le monde, il n'y a pas de contrat entre l'État et SNCF pour les TGV. Jean-Pierre Farandou l'avait dit, le PDG de SNCF, le TGV n'est pas un service public, parce que dans le sens...
Alors, il faut nous expliquer ça, voilà. Justement, cette différence entre entreprise publique et service public, Patricia Perrin.
Service public, en tout cas dans un sens européen du terme, ça désigne un service où une collectivité, que ce soit l'État ou les régions, donne des ordres et décide, en fait. Et donc, il faut un contrat pour dire à l'opérateur ferroviaire, quel qu'il soit, eh ben, tu t'arrêtes tel jour, à telle heure, dans telle gare. Voilà. Donc, ils définissent le service et en échange, ils donnent une subvention. Il n'y a pas un tel contrat entre l'État et SNCF pour les TGV. Et ça, c'est vraiment important parce que, en principe, SNCF devrait être libre pour les TGV de faire les dessertes. Bon, dans la réalité, c'est une entreprise 100% publique qui subit par son actionnaire parfois des pressions politiques pour maintenir des dessertes qui ne le sont pas. Mais voilà, donc la différence, c'est en effet le fonds de concours. Sur la liberté de la desserte, c'est un peu plus compliqué parce que SNCF devrait l'avoir.
Louis Petat.
Juste un rapide commentaire, vous dites que la SNCF pourrait choisir de ne pas desservir des villes moyennes, effectivement, mais moi la question que je me pose c'est est-ce que l'ADN de la SNCF c'est pas justement la desserte des territoires? Historiquement c'est un petit peu ça, parce que bon c'était un acteur public, enfin c'est toujours d'ailleurs un acteur public, mais du coup il y a une mission aussi de desserte des territoires et je trouve que c'est important qu'on se dise l'ouverture à la concurrence ne doit pas tuer ça, ne doit pas réduire le service usager et les dessertes des usagers, et ça pour moi c'est extrêmement important.
Quand on examine, Patricia Perrin, d'ailleurs, les dessertes de la SNCF aujourd'hui, des grandes lignes de la SNCF, est-ce qu'elles seront uniquement dans les villes où cela est rentable ou justement elles dépassent un petit peu sa mission d'entreprise publique pour aller vers du service public?
Voilà. Moi, j'ai toujours un peu de mal quand j'entends dire c'est la SNCF qui devrait, dans son ADN. Non, c'est l'État qui devrait décider, c'est pas la SNCF. La SNCF, elle fait ce qu'elle peut dans les injonctions contradictoires qu'on lui dit. L'État a besoin qu'il gagne ça 1 milliard, ils ont besoin qu'il dégage de l'argent parce que, comme vous l'avez dit, enfin, comme on l'a dit, le réseau ferroviaire, il y a certes des péages, mais il y a besoin de 5 milliards du fonds de concours pour que ça tourne. Donc l'État leur demande de gagner un maximum d'argent et donc ils essayent de maximiser leur rentabilité en arrêtant la desserte des villes moyennes. Et on peut pas... Moi, je ne taperai pas sur Jean-Pierre Farandou, le PDG de SNCF. C'est un moment de dire à l'État, si vous souhaitez une desserte de ce territoire, faites un contrat. Faites un contrat de service public. Et là, il y a plus vraiment grand monde, parce qu'on sait bien que faire un contrat, ça veut dire donner des subventions, ça va coûter de l'argent. Et donc, il n'y a pas de volonté politique. Et on a l'impression, parfois, dans le grand public, il y a cette confusion entre service public et entreprise publique. On pense, parce que c'est une entreprise publique, SNCF, qui sont obligés de faire du service public, ce qui est pas vrai. SNCF, on en a parlé tout à l'heure, ils font du camion et ils font pas de service public quand ils font du camion. Il y a des entreprises privées, Transdev maintenant est devenue une entreprise à actionnariat privé, qui fait du transport autocar scolaire et donc qui fait un service public sélectionné par la collectivité. Donc, il faut séparer les deux. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait un donneur d'ordre. Et en fait, ici, il n'y a pas de donneur d'ordre. L'État n'est pas donneur d'ordre. Et c'est vrai qu'on entretient cette confusion en disant la SNCF devrait le faire du fond de son bon cœur. Mais non, parce que la SNCF, on lui demande aussi de gagner de l'argent. Voilà. Donc, c'est vraiment souligner cette contradiction et de dire, arrêtons de penser que c'est la SNCF qui décide et la SNCF devrait faire ça et la SNCF, c'est dans son ADN. Alors, je ne sais même pas qui est la SNCF, parce qu'on parle en principe de SNCF voyageurs. C'est surtout ça. Et donc, peut-être que l'État devrait réfléchir à la desserte des villes moyennes. Ça aura des conséquences, quoi, financières et tout ça.
Chloé Petat, est-ce qu'il faut contraindre alors ces nouveaux entrants à participer à l'aménagement du territoire comme le fait la SNCF ou l'État? Je prends des précautions maintenant.
Déjà, je suis d'accord avec vous. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'injonctions contradictoires envers la SNCF. Effectivement, c'est la mission de l'État de décider de ces choses-là, mais c'est un virage un peu stratégique. Sur est-ce qu'il faut contraindre, moi, je pense qu'il faut que chaque opérateur qui fait circuler des trains en France paye sa juste part, tout simplement, au même titre que la SNCF. Voilà, les mêmes niveaux de péage. Est-ce qu'il faut contraindre? Mais ça, c'est une vraie réflexion stratégique que l'État est en train de, est en train de réfléchir. C'est-à-dire, il y a des moyens, en tout cas, il y a des pistes. Mais est-ce que l'État a les moyens juridiques de le faire? Ça, c'est une autre question. Par exemple, d'avoir des lots dans les appels d'offres qui mélangent des lignes un peu plus rentables, un peu moins rentables, ou plus ou moins subventionnées, ou d'avoir, entre guillemets, de forcer. Mais ça, encore une fois, sur quelle base? Ça, c'est une vraie question. Forcer la desserte de certains territoires, mais comment faire? Donc, il y a quand même des réflexions qui sont en cours, des pistes. Je pense que c'est une question qui est structurante et sur laquelle il faut vraiment que l'État prenne position. Comment faire en sorte d'avoir un juste équilibre entre l'exploitation des lignes rentables et non rentables? C'est vraiment nécessaire pour faire bénéfice. Si on veut faire baisser l'utilisation de la voiture individuelle, on n'a pas vraiment le choix que de proposer aussi une alternative aux gens. Voilà.
Patricia Perrine, sur ce sujet, j'allais dire, le jour où Trenitalia sera en France rentable, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas, loin de là, est-ce qu'il faudra le contraindre à participer à l'aménagement du territoire français ?
Alors, moi ce qui me gêne un peu dans ce débat, c'est qu'en fait on l'a déjà eu. On l'a eu il y a 10 ans, quand on a ouvert à la concurrence, on a commencé à y réfléchir, et à l'époque, SNCF disait non, surtout pas de contraintes de service public sur mon TGV. Bon, et du coup, il y a le pacte ferroviaire, Elisabeth Borne, qui a pris cette décision de... qu'il n'y ait pas de service public TGV. Ça a été un choix. Je veux dire, il y avait des propositions de loi, à l'époque, au Parlement, qui faisaient le choix contraire, qui disaient, la méthode juridique, on met une loi et on dit, on fait un contrat de service public pour le TGV.
Voilà. Qu'est-ce que ça aurait changé, pardonnez-moi, pour bien comprendre ce que
ça
vous dites?
Ça aurait changé qu'en fait, quelqu'un dans un bureau au ministère des Transports aurait dit, qu'est-ce qu'on veut comme desserte en France ferroviaire? Et aurait dit, la desserte de telle ville moyenne, Laval, le TGV s'y arrêtera.
Donc l'État aurait commandé les choses bien plus utilement.
Exactement. Et donc le choix a été fait de faire le contraire. Donc, changer maintenant, dans la limite, je comprends le débat démocratique, il n'y a aucun souci. Mais le souci, par contre, c'est qu'il y a des entreprises privées, et je pense à Proxima, qui ont levé 1 milliard auprès d'investisseurs privés sur la base d'une réglementation et d'une loi qui a été votée récemment. Si on change les règles du jeu, qu'est-ce que ça envoie comme message sur notre République et sur notre démocratie? Si, en gros, quand on n'est pas content de ce que fait l'économie de marché, hop, on modifie la loi, et du coup, le modèle s'effondre. C'est sûr que ça fait un petit peu République bananière. Et du coup, je comprends l'intérêt, mais ce qui est dommage, c'est qu'on a eu le débat il y a 10 ans, qu'on a dit non, pas de service public, pas besoin, il n'y aura pas de concurrence. Au final, on voit une concurrence arriver et on essaie de changer les règles. Donc, il faut trouver une façon d'un peu concilier les deux parce que, voilà, moi, j'habite dans le centre de la France. Bon, j'ai pas de TGV en l'occurrence, mais je suis très sensible aux dessertes des villes moyennes et qu'en effet, le modèle TGV, il y a un trou dans la raquette parce que autant le TER est pas rentable, il y a une subvention, il y a un contrat. L'intercité, c'est pareil. Mais alors, les TGV de services publics, parce qu'il y en a en fait, ils ne sont pas subventionnés. Pour l'instant, ils sont faits par péréquation. Et oui, la concurrence va les mettre en danger.
Je voudrais vous faire entendre la voix de Rachel Picard. Elle a fondé Proxima. C'est une nouvelle entreprise ferroviaire française.
Alors Proxima va relier les 4 grandes villes de la façade atlantique à Paris. Donc Rennes, Nantes, Angers et Bordeaux. Proxima est né en fait du constat là aujourd'hui que le TGV est plébiscité par les Français, on le voit, et certains restent même à quai. Alors, l'objectif, c'est vraiment d'apporter des places en plus, en fait, en réalité. Déjà, d'amener de la capacité, comme on dit, des places disponibles. On va apporter 10 millions de places disponibles en plus par an. C'est plus d'horaires, c'est plus de choix et c'est plus de facilité pour les voyageurs. On sera sur une gamme de tarifs plus facile et plus simple, en fait, plus direct. Vous n'aurez pas le système de carte. Ce qui est le plus difficile et ce qui est le plus lourd, c'est de trouver le financement et d'acheter les trains.
Bon, c'est prometteur, Chloé Potat, tout ce que nous promet la PDG de Proxima. Proxima qui a levé 1 milliard d'euros, justement, pour pénétrer le marché français.
Non, mais si, l'objectif de l'ouverture à la concurrence, c'est justement d'offrir plus de services et plus de capacités aussi aux usagers. Donc pourquoi pas? Après, c'est vrai que c'est un secteur dans lequel il est difficile de rentrer parce que ça nécessite quand même des levées de fonds assez importantes. Donc là, la question, c'est est-ce qu'un milliard sera suffisant? On a quand même l'exemple de RailCop. Bon, c'était un modèle coopératif. Donc c'est vrai que c'est une autre réalité. Et du coup, il y a aussi des difficultés à lever des fonds parce que
RailCop,
le modèle.
RailCop n'a pas réussi à aller au bout de l'aventure.
Exactement.
Hein, parce que,
et du coup,
l'entreprise
a été liquidée. Exactement.
Donc
c'est quand même pour rentrer sur le secteur, ça reste difficile. Donc effectivement, il faudra voir si c'est 1 milliard, c'est suffisant, et s'ils peuvent aller au bout et effectivement lancer l'exploitation de trains. Il y a d'autres entreprises comme Kevin Speed par exemple qui aussi se positionnent pour exploiter là plutôt des lignes Paris-Lille et autres dessertes.
Patricia Perrine, votre point de vue sur la viabilité économique, financière de ces nouveaux entrants français cette fois-ci?
Alors clairement, quand on faisait le calcul, il y a beaucoup de débats sur RailCop, et souvent quand on parle en millions, en milliards, ça embrouille les gens. RailCop, à la fin, ils avaient 3-4 millions. Enfin, ils n'avaient pas 1 milliard. Et quand on fait la règle de 3, on se dit, un TGV, ça coûte 30 millions, il en faut
3-4 millions?
Ils avaient 3-4 millions d'euros qu'ils avaient levés. Mais 3-4 millions, c'est même pas... Un TGV, ça coûte 30 millions. Donc ça vous donne une idée, quand on a 3-4 millions, on peut acheter un dixième de TGV. Alors si on veut 12 TGV, 15 TGV, ce qui est le minimum, ça fait tout de suite 500 millions. Il faut compter tous les autres trucs, les certifications, les machins. On compte 1 milliard. Et 1 milliard, c'était vraiment au doigt mouillé. Si on fait une règle de 3, le ticket d'entrée pour faire du TGV, 1 milliard. Et du coup, quand Proxima annonce 1 milliard, on se fait bon, ça, c'est un chiffre crédible, parce que pour l'instant, quand on en est RailCop, et tout le monde dit « Ah oui, ils ont des millions ». Oui, ils ont des millions, ouais, on est d'accord, ils n'ont pas des milliards. Et du coup, en termes de grandeur, ils n'ont pas réussi à boucler, et effectivement, ils n'ont pas réussi à boucler. Autre chose, sur Proxima par rapport à RailCop, c'est qu'elle fait des gros TGV, ce qu'on appelle les TGVM, ce qu'on commande la SNCF, c'est les mêmes, et elle fait Paris et 4 grandes villes attractives du littoral, avec la population qui se développe, et elle s'arrête pas dans les gares intermédiaires. C'est là qu'il y a de la rentabilité. Elle va pas faire Bordeaux-Lyon en s'arrêtant dans toutes les gares intermédiaires.
Mais donc en vous écoutant toutes les deux, je me dis que la concurrence, elle existe évidemment sur le papier, elle existe dans les textes législatifs européens, français désormais, elle existe assez peu tout de même dans la réalité concrète de ce qu'est notre système ferroviaire. Je veux dire par là qu'on a des entreprises étrangères qui sont à peine rentables et on a des entreprises françaises qui ont énormément de mal à pénétrer le marché. Patricia Perrin.
Il y a ce qu'on appelle une barrière à l'entrée, il faut 1 milliard pour rentrer. Si on arrive à la lever, par contre, une fois qu'on rentre, il peut avoir des grosses pertes pour SNCF. Et je pense que c'est ça dont SNCF aujourd'hui a peur. Mais oui, c'est pas, comme je dis, souvent les gens comparent avec les startups, en disant, ah, le monde des startups et tout. Ben, c'est pas un secteur dans lequel, avec quelques milliers d'euros qu'on a pris de papa, où Charles Henry va lancer sa startup et révolutionner le secteur. Ça, c'est pas vrai. Il faut plusieurs millions, voire 1 milliard. Et du coup, ça demande d'aller voir les banques, ça demande d'avoir un business model, ça demande énormément de choses. Donc, c'est difficile, mais pas impossible. Et justement, la Proxima qui dit j'ai 1 milliard, et c'est Rachel Picard, et c'est Timothy Jackson, c'est des gens qui sont dans le secteur, qui connaissent.
Rachel Picard, c'est une ancienne de la SNCF.
Timothy Jackson, c'est un financier, donc c'est quelqu'un qui sait comment lever de l'argent. Une fois qu'on a des profils un peu solides, qu'ils y arrivent, et ben là, ça peut être tout de suite la révolution, parce qu'une fois qu'un acteur est entré et qu'il a réussi à acheter les 15 rames Alstom, et ben là, ça peut faire très mal à SNCF, en fait.
Je voudrais qu'on s'intéresse maintenant à la situation des régions, grâce à vous, hein, Chloé Petard. En région, donc, c'est-à-dire à travers les intercités, à travers les intercités et à travers les trains régionaux, quelle est la réalité, cette fois-ci, de la concurrence?
Alors déjà, il faut dissocier les deux activités, parce que les TER, c'est plutôt effectivement l'autorité organisatrice qui sont les régions, quand les intercités...
C'est l'État.
C'est l'État, voilà. Donc déjà, c'est pas pareil. Ensuite, la réalité, c'est que du coup, ça avance petit à petit. On n'est pas forcément au même niveau. Enfin, si je parle des régions, on n'est pas tout à fait au même niveau d'avancement. On a des régions, par exemple, comme la région provinciale Côte d'Azur, qui ont lancé des appels d'offres et qui les ont alloués. Hein. Pour rappel, il y a une ligne qui sera exploitée par la SNCF, qui est ce qu'on appelle la ligne Azur à Ventimiglia, Grasse, Cannes, etc. Et la ligne plutôt intermétropole, là, par Transdev, donc avec un démarrage en juin 2025. Donc je pense que ce sera vraiment observé.
Transdev qui est un acteur privé.
Exactement, mais français. Hein.
Oui, c'est ça.
Voilà, français. Mais donc, juin 2025, donc c'est demain, hein, finalement. Donc, je pense que ça va être... les régions vont vraiment se tourner, regarder ce qui va se passer. Parce que, bon, ben, pour la plupart, elles ne sont pas forcément au même niveau d'avancement. Certaines ont recontractualisé avec la SNCF jusqu'à la date butoir, puisque l'ouverture à la concurrence, c'est fin 2020... Obligatoire, c'est fin 2023... 2033, pardon, début 2034. Donc, par exemple, la région Occitanie a recontractualisé avec la SNCF. Et on a d'autres régions, comme Auvergne-Rhône-Alpes, qui ont commencé à lancer des appels d'offres, sans forcément les avoir alloués à ce stade. Donc on est quand même sur une situation, globalement, où on n'a pas forcément le même niveau d'avancement entre les régions.
Patricia Perrin, cette fois-ci, en région, quand on parle des TER, quand on parle des intercités, est-ce que cela menace le modèle ferroviaire français? Je pense notamment, évidemment, à l'accès à l'ensemble des dessertes existantes aujourd'hui.
Alors là, c'est très différent par rapport au TGV, parce que là, il y a un contrat de service public. Et de toute façon, il faut vous dire quelque chose, le TER n'est pas rentable, au point de vue économique, c'est-à-dire que les recettes des billets ne couvrent jamais les coûts.
En gros, c'est que la subvention, vous nous disiez.
Un tiers de recettes et 2/3 par les impôts. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas de risque de fermeture. Quand les gens me disent les concurrents se mettront pas sur des lignes pas rentables, ben Marseille-Nice c'est pas rentable.
Le pire, c'est jamais rentable.
C'est Nancy contre Aix-et-Ville qui a été gagné par Transdev. Nancy contre Aix-et-Ville, c'est pas la ligne. Si vous regardez ce qu'on appelle le recette sur dépense, le R/D, je sais pas ce qu'il est, mais à mon avis, il doit avoisiner 10-15%. Donc c'est pas du tout pour gagner de l'argent.
Mais donc si un acteur privé, pardonnez-moi, je vous coupe, si un acteur privé décide d'y aller, c'est bel et bien parce que l'État l'appuie financièrement ou l'appuiera dans le temps.
Ou la région. Mais une fois de plus, comme pour la distribution des poubelles, c'est parfois des opérateurs privés qui le font et ils ne vous font pas payer. Ce n'est pas rentable par rapport à ce que donne l'usager ou le transport scolaire où les enfants contribuent un petit peu, mais évidemment pas pour l'ensemble. Donc en fait, on va aligner le transport ferroviaire sur ce qui se passe dans plein d'autres secteurs, la distribution d'eau, voilà, ou le transport urbain, les métros et les trams qui, en dehors de Paris, sont souvent faits par Keolis et Transdev. Transdev, on retrouve les mêmes larrons, quoi. Sur la maturité des régions. En fait, alors faut savoir que toutes les régions ont recontractualisé avec SNCF. Toutes, pas une exception. Par contre, il y en a qui ont recontractualisé 100%.
Et toutes, mais pas sur l'ensemble des lignes.
C'est ça, exactement. Et puis, la plupart des régions ont fait ce truc très intelligent, en tout cas que je trouve en tant qu'économiste des transports, c'est ne pas ouvrir tout à la concurrence d'un coup. Parce que ça, vous êtes sûr qu'il y a trop trop de lignes différentes, les concurrents pourront pas répondre à tout, du coup vous aurez qu'un seul acteur qui répondra, ça sera SNCF, et donc vous aurez pas une super offre. Bon. Du coup, elles ont fait les choses intelligemment, la plupart des régions, elles ont fait un planning. Alors, évidemment, il y a des régions qui, pour des raisons politiques, ont commencé plus tôt, mais aujourd'hui, en dehors d'Occitanie et de Bretagne, qui pour des raisons politiques sont pas favorables à la concurrence, toutes les régions ont des plannings, et je pourrais vous dire, la région Auvergne-Rhône-Alpes, elle a commencé pour le Lot Auvergne, la région Normandie, elle a commencé pour le Lot Étoile de Caen, Provence-Alpes-Côte d'Azur entame son troisième lot, la région Bourgogne-Franche-Comté a entamé pour l'Ouest Nivernais. Voilà. Et du coup, il y a des calendriers. Mais c'est pareil, les gens ne le voient pas forcément, parce qu'en fait, entre le moment où ils gagnent et le moment où les trains circulent, il y a au moins 2 ans. Parce qu'il faut transférer les trains, transférer le personnel. Et entre le moment où ils gagnent et le moment où la région a pris la décision, il y a au moins 2 ans. Donc en fait, c'est des temps très longs. C'est comme finalement pour le TGV, où on a l'impression qu'il y a une annonce et que le lendemain, il va se passer quelque chose. Non, non, il y a une annonce. Dans 2 ans, on va dire qui a gagné. Et dans 2 ans, le gagnant, Transdev par exemple, fera circuler des rames. Des trains concurrents. Attention, il y a déjà trois lots concurrents qui roulent depuis décembre. L'Étoile de Nice, ça a déjà commencé. Amiens, et puis également en Pays de la Loire, autour de Nantes. Donc il y a déjà des concurrents, mais comme c'est SNCF qui a gagné, évidemment, c'est plus difficile de le voir.
Dites-nous un mot, chacune des leçons que l'on peut tirer des exemples étrangers. Je pense notamment à l'exemple britannique et à l'exemple allemand. Chloé, peut-être sur l'exemple britannique, et Patricia Perrin pourrait partir les choses sur le modèle allemand.
Alors sur l'exemple anglais, disons que je trouve que c'est un bel exemple de comment pousser la libéralisation à son paroxysme, c'est-à-dire qu'absolument tout a été libéralisé, on a tout laissé un petit peu, le principe de la concurrence va organiser les choses.
Il n'y a aucune régulation là-bas.
Voilà, pas de régulation. Ce qui s'est passé, c'est des augmentations de prix massives, aucune coordination entre les acteurs, donc pour la qualité de service, parce qu'un usager, il fait pas forcément son trajet de A jusqu'à d'un point A à un point B que en TGV, hein. Il emprunte aussi des correspondances, donc aucune coordination, des retards, en termes de qualité de service catastrophique. Donc ce qui a été décidé, c'est de recréer du coup une structure d'État pour assurer de nouveau la coordination et la supervision du secteur. Donc ça, c'est quand même une leçon qui est intéressante. Et la conclusion que j'en tire, c'est l'ouverture à la concurrence sans aucune régulation, sans aucun suivi. L'exemple du Royaume-Uni nous donne quand même un peu ce qu'il ne faudrait pas faire.
Mentionner aussi la qualité du réseau qui est absolument déplorable. Patricia Perrin, sur le modèle allemand cette fois-ci.
Alors, je rejoins tout à fait ce qu'a dit sur la Grande-Bretagne. Ils ont voulu ouvrir tout d'un coup, très très vite, pour des raisons politiques.
Dans les années 80.
Dans les années 80, et ça s'est très mal passé. Donc on en a retenu, ne surtout pas tout faire d'un coup et ne surtout pas privatiser le réseau. Ça, c'était bien retenu. L'Allemagne, au contraire, c'était beaucoup plus progressif parce que l'ouverture à la concurrence n'a pas devenu obligatoire d'un coup sur tout le pays. C'est très régionalisé aussi, là-bas, avec les Länder. Et du coup, c'est vraiment très décentralisé. Et du coup, les régions ont fait au fur et à mesure. Et là, au contraire, pour le transport régional, on parle du transport régional uniquement, ça a plutôt augmenté le nombre de trains. Il y a plus de trains aujourd'hui en Allemagne qu'il y avait avant l'ouverture à la concurrence. Et par exemple, la Deutsche Bahn fait plus de trains aujourd'hui qu'avant l'ouverture à la concurrence, que le marché a tellement grossi. Même la Deutsche Bahn fait plus de trains. Et c'est vrai que moi, quand je regarde du côté allemand, je me dis, mais ça serait génial d'avoir autant de trains, des TER.
En quantité ?
En quantité, parce que, j'habite à Bourges, ce soir je voudrais rentrer chez moi, le dernier train est à 19h. Le dernier train de la ligne pour rentrer chez moi, c'est 19h. En Allemagne, il n'y a pas une ligne ferroviaire où les trains ne roulent pas jusqu'à 21h, 22h, 23h, minuit. Donc en fait, en France, on est dans une desserte qui est vraiment faible, et en fait, la concurrence par l'interaction entre les acteurs, par la réduction des coûts, si la concurrence est d'avoir plus de trains régionaux pour changer la vie des gens, comme on a pu voir dans l'Étoile de Nice, où ils ont cadencé au quart d'heure, eh ben tant mieux, allons-y, quoi. Si ça permet d'avoir plus de trains, moi, je suis pour.
Merci à tous les deux de cette discussion, de cet échange au sujet de la concurrence dans le secteur ferroviaire français. Patricia Perrin, je rappelle que vous êtes économiste du transport ferroviaire. Chloé Petat, co-rédactrice en chef du média Le Temps des Ruptures. Merci à toutes les deux.